Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une demi-heure pour parler cinéma. Et puis nous aurons l'occasion d'entendre un réalisateur, un grand réalisateur américain que j'affectionne tout particulièrement, c'est Wes Anderson, puisque est maintenant sur les écrans le film qu'il a présenté à Cannes, Asteroid City. Bonjour messieurs, alors toi Guillaume, tu as deux films aujourd'hui.
Oui, deux films où ça parle allemand d'ailleurs, Sisu de l'or et du sang et Il Bohemo.
Toi Manu, un film.
Le nouveau film de Koji Fukuda, de Love Life.
Puis je parlerai très rapidement de La sorcière et le martien de Thomas Bardinet, un film qui sort dans une poignée de salles. Se battre contre les nazis pour sauver son or par le studio à l'origine de John Wick, ai-je lu, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de mandales. On va direction la Finlande pour Sisu de l'or et du sang.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
C'est un passe-temps surprenant.
C'est un ancien commando. Il a perdu sa maison et sa famille à cause de la guerre. C'est un escadron de la mort à lui tout seul.
Après avoir été remarqué par le pourtant pas terrible, mais néanmoins déjà sombre, rare export en 2010, sorti chez nous sous le titre assez ridicule de Père Noël Origine, Jeanne-Marie Elander revient après une aventure américaine oubliable du nom de Big Game et décide cette fois d'aller directement à l'essentiel. Alors Sisu raconte l'histoire de Sisu, un vieil homme accompagné de son chien qui va découvrir dans la Laponie de 1944 dévastée par les nazis un gisement d'or qu'il compte bien utiliser pour de meilleurs lendemains. Mais c'est sans compter sur une troupe de soldats SS qui, bien qu'en déroute et sachant que la guerre est pour eux, va décider d'éliminer l'homme et lui prendre son butin pour pouvoir se faire une situation après la chute de leur Reich qu'ils savent imminente. Le problème est qu'ils s'en sont pris au mauvais homme. Sisu est un ancien soldat d'élite, une légende parmi les siens qui, tel le bras vengeur d'un dieu nordique, ne reculera devant absolument rien pour éliminer toute cette pourriture. Voilà pour l'histoire, maintenant le sang peut couler.
Vous allez voir ce qui se passe quand on lui enlève ce qui compte le plus pour lui.
Tu crois vraiment qu'il est immortel?
Non, il refuse de mourir, c'est tout. Ce qui compte, c'est pas d'être le plus fort. C'est d'être celui qui abandonnera pas. On a un mot pour ça en Finlande.
Car c'est véritablement l'intérêt du film de Jeanne-Marie Elander, de ne jamais dépasser ce postulat minimaliste et de l'entraîner jusqu'au bout. Sisu est un film violent, très violent, et dont les explosions de gore vont rythmer cette histoire entre l'autodéfense et la vengeance. C'est bien évidemment sa force et sa faiblesse. Alors en premier lieu sa faiblesse, parce que rien n'est vraiment creusé, et l'ambition plus pulp que réaliste de son auteur va parfois lui faire faire des écarts de cohérence qui peuvent franchement faire décrocher les spectateurs devant une suspension d'incrédulité fortement malmenée, surtout lors du final aérien beaucoup trop tiré par les cheveux pour convaincre et conserver le sérieux qui marchait tant auparavant. Mais force tout de même, surtout dans sa première partie, lorsqu'il est question des affrontements de Sisu et de cette horde sauvage qui se jauge et se traque dans des paysages magnifiques et parfaitement cadrés par le réalisateur. Alors dans ces moments-là, Elander a fait un excellent usage de son inspiration première et qui est d'une évidence totale, c'est le cinéma de Sergio Leone. Alors même si Jorma Tomila est parfait dans le rôle de Sisu, on aurait très bien pu imaginer un Charles Bronson qui aurait fait des égales étincelles dans cette composition monolithique mais néanmoins extrêmement intense. Alors le fait de rester très simple dans son déroulé et surtout dans la description de ses personnages marche du tonnerre car la part belle est laissée à l'imagination et on se délecte de reconstituer leurs histoires avec les quelques bribes d'informations glanées ici et là, mais cela retombe lorsqu'on finit presque inévitablement par nous en dire trop. Lorsque l'action et le silence parlent, le film est clairement à son meilleur et vaut franchement le détour pour ces moments coincés entre pulp, bande dessinée pour adulte et nazi-exploitation ultra-violente qui malmène les corps. Alors pour ça et sa durée franchement compacte, Sisu vaut le coup d'œil, il vaut le coup d'aller se rafraîchir dans une salle, dans une Laponie apocalyptique, et si toutefois vous n'avez pas l'estomac fragile.
Sisu, de l'or et du sang, évidemment, l'oublie pas, est en salle depuis le 21 juin. Il avait marqué les esprits avec « Fuis-moi, je te suis », film en deux parties, et « Harmonium », voici le nouveau long-métrage de Koji Fukuda, Love Life.
This
is Cinerama.
Et ça, c'est clair.
Qu'en est-il de la vie amoureuse, cette love life promise par le titre? Alors, sous le regard tranchant et retors de Koji Fukuda, il faut bien reconnaître que tout n'est pas rose. La vie est loin d'être un long fleuve tranquille, plutôt une douce cascade semée d'embûches. Derrière les atmosphères ouatées, presque apaisantes, de récits faussement linéaires, le danger est constamment présent dans ce cinéma irrigué de ruptures narratives et graphiques produisant du malaise. Alors, figure prolifique du cinéma japonais contemporain, avec une dizaine de longs métrages au compteur, Koji Fukuda ausculte avec précision et froideur la société japonaise par le prisme de la famille qu'il analyse et déconstruit pour en pointer les dysfonctionnements. Alors on peut le voir comme une sorte de Kore-eda juvénile qui aurait troqué un humanisme tranquille pour une vision beaucoup plus misanthrope du pays insulaire. Alors Fukuda creuse un sillon depuis son remarquable hospitalité, celui du dérèglement de la cellule familiale par un élément externe perturbateur, qu'il s'agit d'un personnage intrusif ou d'un événement dramatique qui vient bousculer la tranquillité inquiétante d'une poignée d'individus ayant souvent des difficultés pour communiquer, prémisse annonçant le pire à venir. L'une des références d'ailleurs majeures du réalisateur est à n'en pas douter le théorème de Pasolini qui avait déjà inspiré un autre japonais, Takashi Miike, avec son très glauque Visitor Q. Alors les variations d'un même thème, l'intrusion donc, sont néanmoins très subtiles chez Fukuda. Donc Taiko et Jiro, jeune couple marié, exerçaient au même endroit une profession dans le secteur social. Taiko a un enfant, Keita, qu'elle a eu de son ancien mariage. Elle n'est pas acceptée par ses beaux-parents, le beau-père surtout, qui habite l'immeuble en face. Ces derniers attendent avec impatience l'arrivée d'un petit-fils légitime. À cette configuration déjà complexe s'ajoute l'ancienne fiancée de Jiro, dont Taiko n'ignore pas l'existence, même si elle ne dit rien. Et enfin, l'arrivée soudaine, pour une raison précise, du père de Keita, qui se trouvait sourd-muet. La langue des signes joue par ailleurs un rôle important dans un film pétri de symboles et justement de signes, alors parfois un peu sursignifiants. Certains éléments clés amenés apparaissent artificiels et un peu pesants, justifiant seulement la logique interne du récit. Love Life est un film très inconfortable, brillant dans son observation à la loupe des rapports ambigus qu'entretiennent les personnages dont on n'arrive que rarement à saisir les fêlures et les agissements. Fukuda est très fort dès lors qu'il s'agit de malmener le spectateur en passant d'une émotion à une autre, quitte à se sentir manipulé par un petit malin. Alors sans dévoiler les surprenants et nombreux rebondissements, il y a cette séquence très éloquente où Taeko part rejoindre son ex-mari parce qu'elle ne peut pas le laisser tout seul de par la vulnérabilité de son handicap. Dans une veine mélodramatique, le réalisateur parvient à nous arracher des larmes, provoquant un inattendu pic d'émotion contredit dans les minutes qui suivent par une révélation remettant tout à plat. La colère qui s'abat sur l'un des personnages impacte le spectateur qui aurait préféré se mettre à distance. Au fond, le très doué Fukuda est un pervers qui fait mine de réaliser une œuvre raffinée à la mise en scène rigoureuse pour mieux nous surprendre au moment où l'on s'y attend le moins. Il se glisse parfaitement dans le costume du gentil faiseur qui s'est composé des cadres harmonieux, maignant dans une lumière du plus bel écrin. Cette forme, alors sournoisement aseptisée, bien que d'une élégance géométrique évoquant Ozu, est le meilleur moyen pour nous faire accepter la noirceur de la situation et l'audace d'un discours jamais policé, celui d'un sale gosse qui n'en a pas fini de régler ses comptes avec des institutions qu'il honnie. Alors heureusement, derrière son petit jeu de massacre à la mécanique bien huilée, dynamisé par un humour corrosif, il dissémine aussi une forme de tristesse, incarnée par la solitude des personnages, ces otis de l'amour qui n'arrivent pas à accorder leur violon ensemble. Alors un beau film à la fois sur le deuil et la rupture amoureuse, qui confirme le talent de son auteur, après L'infirmière, et l'an dernier, le splendide diptyque, d'ailleurs il y avait deux titres, c'était « Suis-moi, je te fuis » et « Fuis-moi, je te suis ». Voilà. Sur ces 10 longs métrages, 8 sont déjà sortis en France, la comédie humaine, qui date de 2008, sort le 9 août en salle. Alors pas de doute, Fukuda, tout comme Hamaguchi, a le vent en poupe, et est un des rares nouveaux cinéastes japonais dont les films nous parviennent régulièrement, et c'est plutôt une bonne nouvelle.
Love Life est en salle depuis le 21 juin. Et si on parlait maintenant du dernier film de Wes Anderson, Asteroid City, qui était présenté à Cannes et qui n'a rien obtenu?
Bah oui, c'est le film est bien.
This is Cinerama.
Oui, c'est bien mon avis.
Retrouver un Wes Anderson, c'est comme si on l'avait quitté la veille. Si certains réalisateurs arrivent à changer leur forme, aller vers des horizons nouveaux, Wes Anderson fait sans doute partie des cinéastes les plus identifiables du cinéma. Peut-être moins le réalisateur de La Vie Aquatique d'ailleurs que celui de la période Moonrise Kingdom, The Grand Budapest Hotel et The French Dispatch. Avantage de Wes Anderson, il peut maintenant toquer à la porte de tous les acteurs qu'il veut. Il a un faible pour Bill Murray, Owen Wilson et Edward Norton, mais pour Asteroid City, présenté donc à Cannes en 2023, eh bien on trouve Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, encore Edward Norton, mais aussi Adrien Brody et un dernier pour la route ou une dernière, Tilda Swinton. Alors je ne sais pas vous, mais moi ça me plaît. Hein. Étant andersonophile, c'est avec plaisir que je voyais cette Asteroid City pour sa projection à Cannes. Mais il faut bien l'avouer, là-bas, pendant le festival, eh bien, le film a été reçu avec une certaine distance, hein, pour être poli. Alors personne n'aurait osé affirmer que le réalisateur américain repartirait avec la Palme d'Or, comme c'était aussi le cas d'ailleurs avec son French Dispatch d'il y a 2 ans. Et ça se comprend, car ce film, qu'on l'aime ou pas d'ailleurs, hein, n'est pas facile à circonscrire.
Venez chercher les filles, je dois rester ici avec Woodrow.
Je suis pas le chauffeur, je suis le grand-père. Où êtes-vous ?
À Asteroid City, Farm Route 6 au kilomètre 120.
Jeunes astronomes et cadets de l'espace, chaque année, nous fêtons la journée de l'astéroïde, commémorant le 23 septembre 3007 avant Jésus-Christ, lorsque la météorite de Harry Plains a percuté la Terre.
Le film est traversé par 2 lieux et 2 temporalités. Alors nous sommes à Asteroid City, endroit perdu dans le Nevada où se trouve un cratère laissé par une météorite, mais aussi eh bien, des essais nucléaires à quelques kilomètres de là. Mais il n'y a pas grand-chose, hein. Une pompe à essence, un dîner et des bungalows. Alors heureusement qu'il va être peuplé alors, par des jeunes apprentis scientifiques participant à un concours d'invention, mais aussi par un photographe de guerre, interprété par Jason Schwartzman, qui tombe en panne avec sa voiture et ses enfants qui doivent tout juste se remettre de la mort de leur mère. Mais cette bourgade est complètement fictive, hein, pour preuve la voiture de police qui est inlassablement lancée à la poursuite des mêmes bandits. Alors cette fiction est conçue dans un autre lieu dans lequel Edward Norton est un auteur de théâtre et Adrien Brody un metteur en scène à la recherche d'un casting. Et tiens, qu'a-t-il dans son casting ? Eh bien un comédien interprété par Jason Schwartzman. Des séquences qui tranchent avec les couleurs pop du désert puisque là, Wes Anderson nous plonge dans un noir et blanc, nous ramenant assurément dans le passé puisque nous sommes dans les années 50. Alors on comprend que le sens de la pièce commence à leur échapper. Tout cela nous est raconté par Bryan Cranston, le prof de chimie trafiquant de drogue de Breaking Bad. C'est lui qui présente les personnages et nous tient au courant de l'intrigue, de quoi dynamiser le récit. Chacun a ses raisons d'être à Asteroid City, mais le plus étrange, c'est que les vacanciers vont être confinés. Alors, par un virus, eh bien non, un alien venu récupérer un bout de l'astéroïde qui était tombé il y a des millions d'années.
Combien de temps ils peuvent nous garder à Asteroid City, je veux dire légalement ?
Moi, je suis pas avocat, mais je dirais tant qu'il leur plaira. Il faudrait déposer une injonction et plaider l'affaire avec succès. 6 mois, 1 an, bien sûr, il faudrait aussi qu'on engage une action civile pour perte de revenus.
Peut-être qu'on devrait s'en aller sans attendre. Je suis pas sûr qu'ils puissent nous en empêcher, sans tuer qui que ce soit.
L'idée est intéressante. Est-ce qu'on peut aller loin avec le réacteur dorsal ?
Demandez à Roger ou à son fils, apparemment il est poursuivi pour avoir révélé des secrets d'État.
Ça n'aboutira jamais.
Moi je suis pas pressé, j'aime bien le désert, j'aime bien les aliens.
Paul !
Du coup, l'ambiance change quelque peu, ça se côtoie, ça se dit, ça discute, hein. On s'aperçoit que chacun a un manque, soit quelque chose, soit quelqu'un.
Bonjour. 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 On s'est déjà vu, je suis la maman de cette Cookie Girl Scout dont vous êtes l'idole. Je sais, vous ne m'auriez peut-être pas reconnue sans mon uniforme. Vous étiez excellente dans le rôle de la traînée, dans le bordel. Merci. Qui a une amnésie et qui devient pédiatre. Vous étiez vraiment
authentique. De tous les personnages que j'ai joués, c'est celui que je préfère.
Je ne sais pas pourquoi personne d'autre l'a aimé.
Oh, oui. Moi non plus, merci. Certains l'ont aimé.
Oh, j'en suis sûre. Moi, oui.
Les bungalows qui se font face donnent lieu à des séquences étonnantes où les conversations se déroulent de salon à salon, de fenêtre à fenêtre, alors notamment entre le personnage de l'actrice interprétée par Scarlett Johansson et le photographe. La symétrie tant appréciée par le réalisateur se retrouve encore là, mais toujours au service du récit. Dans cet espace confiné relié à l'univers, chaque personnage se confronte à un vide. En creux, dans ce cinéma qui est toujours bien balisé, hein, avec ses images colorées, ses plans millimétrés, sa fameuse symétrie, donc quand ce n'est pas l'écran coupé en deux, Wes Anderson semble revendiquer le pouvoir des histoires, de la fiction et du merveilleux. À Jason Schwartzman, qui dit à son metteur en scène « Je ne comprends pas le sens de tout ça », eh bien celui-ci répond de continuer à raconter l'histoire. Alors je pense qu'un film de Wes Anderson, pour des raisons bien plus profondes que pour un film de Christopher Nolan, doit ou pourrait se regarder plusieurs fois pour en apprécier la mécanique. Car derrière ce qui pourrait ressembler à une maniaquerie ou des tics de mise en scène se cache un propos qui n'a de cesse de se nourrir des images qui sont produites. Alors si on écoutait Wes Anderson, mais avant d'entendre le réalisateur américain, c'est Scarlett Johansson qui a répondu à la question « Qu'est-ce que ça fait de tourner avec Wes Anderson ?»
Je suis actrice, mais
Wes Anderson crée tout un environnement tangible, un espace utilisable. C'est un petit peu comme si l'on était au théâtre, parce que nous sommes dans un espace donné et on n'a pas à aller s'occuper du son, à retourner dans son logement. Tout cela, c'est bien sûr ce qu'on peut faire, ce qu'on fait dans un tournage. Mais enfin, Wes nous a évité beaucoup de ces tâches et pour nous placer dans cet environnement vibrant, un petit peu comme lorsque l'on travaille au théâtre. C'est tout à fait passionnant.
C'était Scarlett Johansson, une des actrices de Asteroid City. Maintenant, place au réalisateur américain Wes Anderson, qui était donc présent au Festival de Cannes lors de la conférence de presse.
Je viens d'informer le président.
Combien de temps ils peuvent nous garder à Asteroid City, je veux dire légalement ?
Le monde ne sera plus jamais le même.
Je pense qu'au cours de la partie la plus intense de l'épidémie, nous écrivions le scénario. Donc, il n'y a pas eu de quarantaine dans cette histoire, mais c'était pas délibéré. Quand on écrit, l'écriture, d'une façon ou d'une autre, est une sorte d'improvisation, parce que on n'a rien, on n'a absolument rien, et puis si on n'a pas d'inspiration, on ne reste sur rien. Et donc, ça, c'est toujours comme ça dans la vie. Pendant toute notre vie, on lit certaines choses, et nous, dans notre préparation de ce film, on a écrit certaines choses. Il y a beaucoup de choses que l'on contrôle, d'autres qu'on ne contrôle pas.
Que signifient ces pulsations ?
Quoi ? Oh, les bips et les points, on l'ignore.
Certaines de nos informations sur l'espace ne sont plus tout à fait d'actualité, mais en tout cas, il y a toujours 9 planètes dans le système solaire, à ce qu'on sache, oui, Billy ?
Mais maintenant, il y a un alien.
Il y a différentes choses que je souhaite tourner d'une certaine façon. Et je ne suis pas certain de bien maîtriser tout cela. Ça fait partie de ma personnalité. Et j'essaie aussi d'y penser au moment de l'écriture du scénario. Et donc, ces ralentis sont des outils que j'utilise parfois assez souvent. Peut-être que je devrais revenir davantage à ces ralentis. Lorsqu'on tourne, on fait quelque chose et la caméra tourne, ça peut aller vite, il y a davantage de cadres par seconde. Et puis la caméra fait un bruit au bout d'un moment. Et si on va trop vite avec la caméra, ça peut l'endommager. Et on ne sait pas quel résultat on va obtenir. Parce que tout est transformé au final. C'est comme quelque chose de magique. Ça fait penser à Cocteau, par exemple. Il y a longtemps qu'on utilise des ralentis.
Se passe-t-il encore ?
Je n'en sais rien.
J'aime pas la manière dont il nous a regardés.
L'alien.
Comment il nous a regardés ?
Comme si c'était foutu d'avance.
C'est peut-être le cas.
La raison pour laquelle on fait quelque chose, c'est que à un moment, le personnage demande pourquoi est-ce que tu danses, pourquoi est-ce que tu vis. Il n'y a pas vraiment de réponse. Mais je pense que c'est tout à fait automatique de raconter des histoires. Et mettre ça au théâtre, même si je ne le fais pas réellement au théâtre, eh bien, ça a toujours une connotation passionnante. C'est un petit peu comme si on était face à un public qui attend de voir ce que l'on a créé. Moi, je ne travaille pas au théâtre parce que ça me fait un peu peur. Il faut en effet réserver un théâtre avant même la répétition et ça va ouvrir tel jour qu'on le souhaite ou pas. Et ça me dérange. J'aime bien avoir du temps en salle de montage et jouer avec ce qu'on a filmé pour s'assurer que le résultat est approprié.
Un alien qui fait des pompes, un alien avec un haut de forme.
Il y a quoi là-haut ? Le sens de la vie ? Peut-être qu'il y en a un.
Vous êtes marié ?
Non, je suis veuf. Mais dites rien, mes enfants.
T'es en train de dire que notre mère est morte il y a 3 semaines.
Disons qu'elle est au paradis.
qui n'existe pas pour moi, bien sûr, mais vous êtes épiscopalien.
Dans ma solitude, j'ai appris à offrir une foi totale et inconditionnelle à tous les gens que j'aime. Alors, je ne sais pas si tu en fais partie, mais ça incluait ma fille et vos quatre enfants.
Les acteurs sont différents de tout le monde, différents de l'équipe, différents de moi. Ils ont des liens ensemble qui me semblent toujours mystérieux et qui le sont particulièrement mystérieux au début du tournage. Parce que ce sont eux qui construisent le film. Ça va être vous qui allez être à l'écran. Et tout le monde essaie d'être précis dans les moindres détails. Et d'une façon ou d'une autre, j'ai l'impression que tout cela permet aux acteurs d'être connectés entre eux. Et ce qui permet à des personnes de voir le résultat. Et ça, ça me surprend énormément.
Parfois, je pense que je me sentirais plus chez moi, en dehors de l'atmosphère terrestre.
Oh, wow. Moi aussi.
Ils sont étranges, n'est-ce pas, vos enfants? Comparés aux gamins normaux?
Ouais.
C'est exact.
Pas faux. Freight train, freight train, going so fast.
Freight train, going so fast. J'ai une scène de nuit, vous voulez la voir?
Hein, j'ai dit oui.
Vous n'avez rien dit du tout.
Je voulais dire oui, mais ma bouche n'a pas parlé.
C'était un extrait de la conférence de presse de l'équipe du film Asteroid City pendant le Festival de Cannes 2023. Voici un biopic sur Josef Myslivecek, que le jeune Mozart admirait, paraît-il. Il Bohemo.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Cinérama.
Eh bien, oui, je crois que oui.
Et oui, la comparaison avec Mozart est écrasante, mais malheureusement inévitable, d'autant plus que le principal intéressé fait partie de l'histoire, alors avec un petit et un grand H, qui nous intéresse aujourd'hui, donc autant crever l'abcès. Oui, Il Bohemo fait penser à Amadeus, l'immense chef-d'œuvre de Miloš Forman, autant par son récit, le parcours atypique et marginal de deux personnalités géniales devant lutter contre la médiocrité de leurs contemporains pour s'exprimer et révolutionner leur art, que parce que le musicien et compositeur dont il est question, Josef Myslivecek, donc qui fut une source d'admiration et d'inspiration pour Mozart. Il Bohemo, donc surnom donné à Joseph, je vais l'appeler comme ça parce que j'ai un peu trop peur d'écorcher les noms du casting.
Tu fais bien.
Raconte la vie donc courte mais riche de cet homme d'origine étrangère qui vit en Italie pour continuer sa formation de musicien et devenir l'un des plus grands compositeurs de son temps. Mais il va vite se rendre compte d'une chose, le talent est une chose, la reconnaissance en est une autre. Si le talent suffisait à ce qu'une étoile devienne du jour au lendemain célébrée pour son génie, le chemin se ferait d'une toute autre façon. Dans la Venise du XVIIIe siècle, dont les pratiques de clans et des puissants, des cercles politiques et culturels n'ont rien à envier aux agissements actuels, Joseph doit séduire, s'acoquiner, convaincre des gens dotés d'argent, lui qui en manque cruellement, pour qu'il le finance et lui permette d'atteindre les lieux et les oreilles dignes de sa musique. Alors le fait qu'il est beau garçon l'aide certes un peu, et va lui valoir des maîtresses prestigieuses et les conséquences rocambolesques qu'on imagine, mais ce qui va lui faire défaut dans ce monde de médiocre et son intégrité totale. Joseph est doué, il le sait, il peut le prouver, et va avoir beaucoup de mal à négocier avec des gens qui pensent mieux que lui ce qu'est la musique et l'art en général.
Siete in pericolo, amico mio.
È da tanto tempo che non scrivo una misura.
È raro, sapete, che io sia testimone di un successo così strepitoso.
Joseph, ce n'est pas les notes de trop, reproché à Mozart, mais un trop de voix qui tempère les ardeurs de son entourage. Car il cherche non pas à adapter sa musique à la voix, mais veut pousser la voix jusque dans ses derniers retranchements. Et cela nécessite forcément que des interprètes exceptionnels. Il est inutile de dire qu'il sait, lui, comment arriver à accomplir ses miracles, mais pour cela, il va falloir convaincre des chanteuses insupportables, des mécènes ignares et des musiciens jaloux quand ils ne sont pas assez doués. D'entrée, on nous expose la fin de sa vie, le corps littéralement rongé et pourri par la syphilis, mais on comprend très vite que ce n'est pas tant sa vie de débauche qui l'a tué de manière précoce, mais le contact de son entourage qui correspond parfaitement à la définition du médiocre telle que la philosophie Ayn Rand dans La Source Vive ou La Grève. Impact des séries plus ou moins historiques produites par HBO depuis deux décennies oblige, il est désormais impossible de dépeindre une époque dite costumée sans en montrer une réalité sombre et crue. Alors à ce niveau, Il Bohemo ne nous épargne rien des turpitudes de la chair qui anime les puissants et les situations souvent scrabreuses qui hantaient les cours. Au détour d'un salon, les bourgeois organisent des orgies, s'échangent des fluides comme des maladies, dont celle qui sera fatale à Joseph, éructent bien loin des manières que l'on pourrait attendre de personnages d'un tel rang et nous posent en spectateurs de situations parfois ubuesques. Ainsi, à l'une des scènes les plus marquantes du film voit le roi philosopher sur le sens de la vie, du beau et de l'art avec Joseph, tout en déféquant au milieu d'une loge après une représentation, pour ensuite faire un comparatif audacieux entre la création musicale divine à laquelle il a assisté et le sérieux de la consistance de ses selles comme argument définitif de sa pensée qu'il juge profonde. Donc pour peu, on aurait l'impression d'être dans la chair et le sang de Paul Verhoeven, hein, où l'on nous rappelle à tout moment que les conditions de vie des protagonistes sont dictées par leurs instincts, leur rapport au corps et à l'usage qu'ils en font pour exercer un pouvoir certain sur les plus faibles, que ça soit physiquement ou une simple question de classe sociale. Il Bohémo, hein, est donc un saisissant portrait d'artiste, hein, qui doit autant faire la guerre que l'amour pour atteindre la pureté dans son art et toucher les cœurs, quand ces deux notions, bah, qui sont en apparence antinomiques, ne sont pas simplement mélangées dans ce XVIIIe siècle impitoyable. La plus grande différence avec Amadeus de Forman donc et sa mise en scène bien moins inspirée, le seul vrai défaut du film, mais qui n'entache toutefois jamais l'intensité des situations. Ce qui fait, à mon sens, d'Il Bohémo clairement l'un des meilleurs films de cette année.
Eh bien, comme ça c'est dit, Il Bohémo donc est en salle depuis le 21 juin. On aurait tort de ne plus croire aux histoires extraordinaires. Voici le petit poussé des sorties du 21 juin, La sorcière et le martien.
J'ai des choses importantes à vous dire.
This is Cinerama.
Je vous adore. Vous êtes la joie de mon cœur.
Ferme les yeux. Pense très fort à la chose que tu rêverais le plus de voir. Maintenant, ouvre les yeux.
Monteur notamment pour Dominique Moll, Thomas Bardinet est aussi réalisateur, mais de films qui sont totalement passés inaperçus. Celui-ci ne devrait pas faire exception, mais si vous passez devant une seule qu'il programme, eh bien pourquoi ne pas vous laisser tenter ? Le point de départ du film, tourné essentiellement avec des enfants, ce sont des ateliers que le réalisateur anime depuis 10 ans à Floirac, donc en banlieue de Bordeaux. À force de courts-métrages réalisés avec les enfants, en s'aventurant dans des terrains inconnus pour lui que sont la science-fiction et le fantastique, eh bien Thomas Bardinet a eu l'idée de faire un film en reprenant ces genres, mais à son échelle. Comme il le dit, il n'y a pas de meilleurs effets spéciaux que ceux qui se passent dans la tête du spectateur s'il veut bien être notre complice. Alors oui, il faut l'admettre, le budget effets spéciaux de La sorcière et le martien, eh bien, était assez faible, hein, assez maigre, et ce n'est pas comme dans un Gondry où les effets spéciaux peuvent épouser le carton-pâte en toute innocence. Là, c'est un autre parti pris. Dans La sorcière et le martien, cela passe surtout par le discours, quelques ombres et hors-champ. On fait comme on peut, mais l'intérêt du film est ailleurs.
Demain, je pars dans une nouvelle famille d'accueil. Y a pas de la place dans ta fusée ?
Tu crois que je vais aller sur Mars ? T'es vraiment bête.
Le film commence avec deux disparitions, deux enfants qui ne ressortiront jamais d'une forêt. Alors au policier qui vient parler de l'affaire à l'école, Myriam, un peu naïve, explique que ça pourrait être un coup de la sorcière. Elle est moquée, mais Bilal lui prend sa défense. Alors non qu'il croit aux sorcières, mais que n'ayant aucune explication de disparition, on ne doit rien omettre. Ou lui, il est plutôt le côté rationnel. Alors parce qu'elle y croit, ou nous y fait croire, hein, nous allons faire la rencontre de la sorcière, et puis aussi de la fée, et puis d'un être maléfique. Et nous allons suivre aussi le parcours de Bilal, qui raconte à son amoureuse, qui ne partage pas ses sentiments, que dans deux jours, eh bien, il part pour Mars rejoindre ses parents, et que eh bien, si elle le veut, il y a de la place. Mais il n'y a que Myriam, qui le croit, elle qui refuse le départ vers une nouvelle famille d'accueil. Alors il croit tout, Myriam, ça l'aide. La forêt transforme les enfants en animaux. Et au travers de cette métaphore, eh bien, il faut saisir que ces enfants quittent leur enfance. C'est ce qui pourrait arriver à la fin de l'été à ces deux personnages qui vont se rencontrer. Lui, le rationnel, donc le premier de la classe, et puis elle, la rêveuse. Tournée à l'économie, la sorcière et le martien se laissent regarder. Alors non pour la performance des jeunes acteurs, hein, qui ne sont pas vraiment à la hauteur, mais pour le geste cinématographique qui nous convie à une histoire fantasque, irréelle, mais à laquelle croient deux enfants. Et c'est déjà ça. La sorcière et le martien est donc programmé dans très peu de salles, ce qui est presque dommage, hein, parce que Thomas Bardinet souhaitait accompagner son film en faisant des ateliers avec les enfants. Voilà, ça aurait pu être une occasion pour beaucoup de cinéma.
Alors ?
C'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui. J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai ?
Ça se termine toujours comme ça. Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
On se retrouve la semaine prochaine, vous aurez chacun un film.
Oui, ce sera Passage, le nouveau film d'Irasax.
Et puis toi, Guillaume ?
Moi, de l'animation avec Chonchon.
Et puis, ce sera le retour de Marine aussi, à la semaine prochaine.